enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Nous bénissons Dieu pour sa présence. Nous bénissons Dieu pour son onction au milieu de nous. Amen. Et nous bénissons Dieu pour le thème que nous sommes en train d'aborder. Nous savons qu'il est très important pour nous, il est très important pour le Seigneur. Je veux pour cela qu'on prenne encore nos Bibles, qu'on prenne nos Bibles directement dans les livres, dans l'Évangile selon Jean au chapitre 2. L'Évangile selon Jean au chapitre 2, à partir du verset 1. Voilà ce qu'il est dit. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Fais ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases et il les remplit jusqu'au bord. » Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Verset 11, « Ce fut là, à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. Dis avec moi, il a manifesté sa gloire. Alléluia. Donc il est dit, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Alléluia. Le verset 11 de ce passage nous dit une chose extraordinaire. La Bible dit que c'est là que Jésus-Christ a manifesté pour la première fois sa gloire au travers d'un miracle. La Bible dit que c'est celui son premier miracle. Je pense que la précision est de taille. Le fait que le Seigneur vienne à préciser que c'est le premier miracle, c'est que ça a une importance particulière. Nous savons que Jésus a dit dans les Écritures que nous ne devons rien retrancher aux Écritures et rien ajouter. Il dit même la plus petite des lettres, nous n'avons pas le droit d'en retrancher, d'ajouter quelque chose. Ce qui signifie que chaque mot, chaque phrase dans la parole de Dieu a un sens et est placée là pour un but. Alléluia. Alors le fait que Dieu dise que ce miracle a fait, la Bible dit que ce miracle a fait le premier miracle de Jésus, a un sens profond. Amen. Ça a un sens. C'est-à-dire, Jésus s'apprêtait à venir, Jésus est sur la terre, il s'apprête à faire beaucoup de prodiges et de miracles. Mais il décide de destiner son premier miracle à Cana en Galilée, lors de cérémonies de mariage à des noces. Alléluia. Premièrement, pour nous montrer l'importance qu'il y a pour Dieu en ce qui concerne le mariage. Amen. Si Jésus n'a pas réservé son premier miracle pour guérir un paralytique, pour faire voir un aveugle, Christ n'a pas réservé son premier miracle pour, chasser un démon. Il n'a pas réservé son premier miracle pour faire une délivrance. Il n'a pas réservé son premier miracle à multiplier le pain pour que les gens aient à manger. Le premier miracle qu'il a fait, il l'a réservé à des noces. Ça a quand même un sens, n'est-ce pas? Alléluia. La précision que la Bible donne à cela a tout de même un sens. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas un hasard. Dieu l'a fait expressément. Donc le Seigneur vient et Dieu décide donc de réserver son premier miracle au mariage, aux noces de Cana, c'est-à-dire dans une circonstance de mariage. Tout simplement pour dire que le mariage est encore extrêmement important pour Dieu. Et là, si Christ réserve son premier miracle, je suis en train de simplement de nous expliquer que, vous savez, ici il était venu pour visiter le monde. Je veux que vous compreniez qu'un des premiers grands miracles que Dieu veut faire dans votre vie va concerner votre situation conjugale. Amen. C'est très important pour Dieu. Je veux que vous compreniez que votre situation conjugale ne vous préoccupe pas plus qu'elle ne préoccupe le Seigneur.
Le fait que ton mariage tarde ou que ton foyer connaisse des difficultés, ne crois pas que cela te préoccupe plus que cela ne préoccupe le Seigneur. Amen. Mais le Seigneur a une façon toute particulière de produire un miracle. Alors revenons sur le contexte des noces de Cana pour comprendre la portée de ce miracle. Parce qu'à l'intérieur, ce n'est pas simplement de l'eau qui a été changée en vin, mais il y a tous des symboles et des gestes ou des actes que Christ a fait qui doivent éveiller notre attention et comprendre qu'il ne s'agisse pas simplement de transformer de l'eau en vin, mais il y avait un plan de Dieu, un message de Dieu, un message de notre Seigneur dans ce miracle-là. Alors rappelons l'histoire. La Bible dit que si ce fut le premier miracle de Jésus, ça signifie tout simplement qu'avant cette histoire, Jésus n'avait fait aucun miracle. On voit dans ce passage qu'il y avait déjà des disciples qui le suivaient. Ça va, on me suit ? Il y avait déjà des disciples qui le suivaient. Donc, il y avait des personnes qui suivaient le Seigneur parce qu'ils croyaient en sa parole. Vous me comprenez ? Donc, on parle bien de disciples. On dit, ce fut là que les disciples virent pour la première fois le miracle de Jésus. Et la Bible dit qu'après ce miracle-là, ils ont cru en lui. Donc, les gens suivaient Jésus parce qu'ils avaient entendu parler de lui. Pas parce qu'ils n'avaient pas encore vu sa puissance. Alléluia. On peut le lire, il a dit, tel fut, verset 11, tel fut à Cana le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Verset, chapitre 2, verset 1, il a dit, trois jours après, une des noces à Cana en Galilée, la mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces de Cana, aux noces avec ses disciples. Donc il avait déjà des disciples. Si on parle de disciples, on parle de gens qui ont cru en lui. Amen. On parle de gens qui marchent avec lui. Alors, de quelle nouvelle croyance on veut dire après le miracle au verset 11 en disant, après ce miracle-là, ils ont cru en lui. Amen. Est-ce qu'on peut parler de disciples sans le fait de croire en Christ? Non, mais la foi nouvelle qu'ils viennent de manifester est une dimension supérieure.
Amen.
Alléluia. J'ai l'habitude de le dire, nous croyons tous en Jésus. Nous savons que Christ est puissant, il fait des prodiges, il fait des miracles. Si nous venons amener ici un paralytique, ou bien quelqu'un qui a les pieds coupés, nous avons même un paralytique, quelqu'un qui marche, mais qui utilise une chaise roulante, et qu'on vient à prier que ce malade la guérisse, qu'il se lève et qu'il se mette à marcher, n'est-ce pas? Ça va galvaniser votre foi, non? Avant, tu croyais en Jésus, mais quand tu vas voir le miracle, tu vas encore croire. Alléluia! Tu vas mieux croire. Maintenant, si c'est quelqu'un dont le pied est coupé, et on prie et tu vois le pied qui sort et qui se met à pousser, à se reconstituer, ta foi en Christ va être encore plus grande. En fait, c'est ce qui s'est passé.
Amen.
Pour galvaniser la foi de ses serviteurs, Jésus a utilisé un miracle à des noces. Quand on parle de noces, on parle de mariage. Quand on parle de noces, on parle de foyer. Quand on parle de noces, on parle en fait de tout ce qui concerne les mariages. On parle aussi des fiançailles. Parce que c'est le moment où on quitte les fiançailles, n'est-ce pas, pour entrer pleinement dans la plénitude, n'est-ce pas, de cette alliance-là, du lien du mariage. Donc lorsqu'on parle de noces, on parle de toutes ces choses. Et je veux t'expliquer que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tes fiançailles, la rencontre avec ton conjoint, ton foyer intéresse Dieu. C'est un sujet qui intéresse Dieu. C'est pourquoi il y a réservé son premier miracle. C'est pourquoi lorsque vous lisez Genèse, une des premières choses que Dieu a faites, lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, Dieu fit l'homme à son image pour qu'il domine, il créa l'homme et la femme pour qu'il domine, il dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez. Donc, une des premières choses que Dieu a dites à l'homme, c'était la famille.
Amen.
Quelque temps après, il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, la famille est vraiment importante. Maintenant, analysons attentivement ce miracle, comme je l'ai dit tantôt. Donc, Jésus arrive aux noces de Cana, et puis, il est là tranquillement. Les gens ne le connaissent pas. À part ceux qui l'ont entendu déjà prêcher, et qui ont commencé à le suivre, donc quelques disciples. Et puis, donc, ils arrivent là, et retenez que Jésus n'avait fait encore aucun miracle. Ce qui veut dire que sa mère, Marie, il n'avait jamais vu faire quelque chose d'extraordinaire. Sauf qu'elle avait senti qu'il avait une sagesse spéciale dans les réponses aux questions qu'il donnait aux gens lorsqu'il avait parlé un peu avec les érudits là. Bon, elle est venue plus tard, mais elle sentait que quand même son fils avait des aptitudes et des. Mais il n'avait pas fait de miracle avant. Sinon, on avait dit que c'était son second, bien sûr, son troisième, son quatrième miracle.
Amen.
Donc, Jésus-Christ, Marie, personne ne le connaît. Marie n'a jamais vu son fils faire un miracle. Comme je l'ai dit, s'il en avait fait auparavant, on n'aurait pas dit que c'est son premier miracle. Donc elle arrive, et puis, la Bible dit que subitement dans cette fête-là, il n'y a plus, le vin est venu à manquer. Dans la parole de Dieu, le vin est le symbole du Saint-Esprit, mais aussi le symbole de la joie, du bonheur.
Amen.
Lorsque quelqu'un boit du vin, il a une certaine extase, il est content. Donc la Bible dit que le vin est venu à manquer. Et les gens donc, le symbole de la joie, du bonheur, a commencé à disparaître. Est venu à manquer. Et la Bible dit que, je ne sais pas pourquoi, mais Marie va vers Jésus et elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Sa question n'a pas de, entre guillemets pour nous, ça n'a pas de sens. Premièrement parce que Jésus-Christ n'est pas vigneron. Ce n'est pas un vendeur de vin. Et puis tu ne l'as jamais vu faire un miracle. Donc, attends, qu'est-ce qui te vient d'aller lui demander à lui? Ils n'ont plus de vin. Alléluia. Amen. Donc, il y a un sens. Donc, elle va demander à Jésus, ils n'ont plus de vin. Mais Marie connaissait le Seigneur, avait une certaine révélation de son fils. Parce que la Bible dit, depuis qu'il était petit, elle gardait dans son cœur tout ce qu'il faisait. Elle avait fini par comprendre et par sentir qui il était. Je vous assure que je crois que Marie a compris. Alléluia. Marie a compris que le ministère de Jésus devait commencer ce jour. Elle a senti. Et elle va vers lui. Elle dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répond, entre guillemets, on peut dire que c'est un peu mal. Hein. Dis pas, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Et voilà ce qu'il dit. Mon heure n'est pas encore arrivée. Mes amis, je vais toucher une petite parenthèse un peu profonde. Dimanche, mardi dernier, j'ai dit que la gloire dans la famille, la manifestation de la vie dans la famille sera lancée par les femmes. Amen. J'ai dit, c'est une prophétie. Pas parce que je l'annonce, mais parce que Dieu dit, lorsque l'homme a chuté, il dit, lorsque l'homme a mangé le fruit, il y a eu le premier conflit conjugal. L'homme ne s'est pas entendu avec sa femme en ce qui concerne la responsabilité de qui a mangé le fruit. Premier conflit conjugal. Ça a enchaîné division entre leurs enfants. Ça a enchaîné dans leur descendance après polygamie et autres. Mais quand Dieu prophétise, quand il parle à l'homme, il parle à la femme, il parle au serpent, il donne une punition, mais en même temps, à l'intérieur, il donne les solutions. Il dit, serpent, je me dis, tu vas ramper sur ton ventre tous les jours de ta vie, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Il dit, ta descendance va blesser le talon de la femme, et la descendance de la femme va écraser la tête du serpent. Mes amis, suivez-moi très bien. Je vais très bien m'allonger. Dans la parole de Dieu, quand on parle de descendance, on n'a pas allusion à la femme. On parle, on dit, si on voulait dire la descendance de tous les hommes, on aurait dit Adam, ta descendance va écraser la tête du serpent. Si on voulait parler de l'humanité, si Dieu voulait être en train de dire que l'humanité va écraser la tête du serpent, il n'allait pas dire femme, ta descendance va écraser. Il allait dire homme. Vous me suivez, non? Parce que la femme se mariant avec son mari, n'est-ce pas, porte son nom. Et quand vous regardez les généalogies et les descendances, on ne cite pas la femme, mais on cite l'homme. Donc si Dieu voulait parler de toute l'humanité qui allait descendre de Adam, pour dire que tous les hommes allaient recevoir le pouvoir d'écraser la tête du serpent, il n'allait pas dire femme, ta descendance écrasera la tête du serpent. En disant femme, il parlait d'une descendance bien précise, assez particulière. Alléluia. Ce n'est pas toutes les descendances. Il dit, femme, ta descendance va écraser la tête du serpent. Et cette descendance-là commence, amen, à partir de Jésus. Amen. Mais en fait, ce qu'il y a dans cette fois, c'est que si Dieu a parlé à la femme, je l'ai déjà enseigné, je vais revenir dessus. Si Dieu a parlé à la femme, c'est tout simplement que celui qui allait la descendance, c'est-à-dire quand on dit ta descendance, ça veut dire ton fils ou bien tes fils vont écraser la tête du serpent. Dieu a dit à la femme, il a dit femme, parce que l'homme qui allait venir écraser la tête du serpent allait venir d'une femme sans un homme, une femme qui n'a pas eu de rapport avec un homme. Donc, alléluia. Bon, il y en a qui n'ont pas compris. Marie n'a pas eu de rapport avec un homme pour enfanter Jésus.
On dit un homme le sang d'un autre homme lorsqu'il en est le géniteur. Mais comme celui qui va venir détruire Satan n'a pas de géniteur mâle, homme, Dieu ne peut pas dire homme, ta descendance va écraser la tête du serpent. Il dit femme, ta descendance, ça veut dire quelqu'un va sortir de toi. Alléluia. Amen. Et cet être-là va écraser la tête du serpent. Ce qu'il est en train d'expliquer, vous savez, ce n'est pas écraser tout le serpent, mais la tête. Ça veut dire ce par quoi le diable règne et qu'il détruit l'humanité. La tête, c'est le centre de réflexion. Et la première des choses que le diable a attaqué, quand il est venu attaquer l'humanité, c'est le foyer. Vous me suivez, non? Alléluia. La première des choses qu'il a attaqué, c'est le foyer. Dieu va donc dire, Satan, tu es passé par la femme pour détruire les couples. Mais tu es par cette même femme. Je ferai sortir une descendance qui va t'écraser la tête. C'est pourquoi il va continuer en disant, femme, c'est pourquoi j'ai mis dans ton cœur un désir. Tes désirs vont se porter vers ton mari, c'est-à-dire vers ton foyer. Depuis lors, je n'ai pas dit que les hommes ne se soucient pas de leur mariage, mais de leur situation conjugale. Mais si vous êtes, vous allez vous rendre compte que le fardeau de la famille importe plus à la femme qu'à l'homme. L'homme, lui, c'est comment il va nourrir sa famille, comment il va avoir les moyens. Pas qu'il ne pense pas à ses enfants, à sa femme, ça, il le fait. Mais généralement, moins que la femme. Sauf, bien sûr, les personnes que le diable a tellement le diable les a détournées, ils savent tout ce qu'ils vont faire. Ok. Alors, on gagne du temps. Donc voilà ce que l'Éternel est en train de dire. Et Dieu va commencer maintenant à le faire. Cette prophétie-là va voir son accomplissement dans la façon de Marie. Je veux faire une parenthèse. Ça ne veut pas dire qu'il faut prier Marie. Ça ne veut pas dire qu'il faut prier Marie. Marie est un puissant instrument entre les mains de Dieu. Mais aucun passage des Écritures ne nous donne, ne nous dit qu'elle doit faire l'objet d'un culte. Comme l'Éternel ne nous l'a pas dit. C'est-à-dire, nous, la Bible dit, les gens vont te dire bienheureuse, nous la respectons. C'est une femme extraordinaire, c'est une femme de foi terrible. Vraiment. Hein? Parce que quelquefois les évangéliques, tellement ils ont envie de discuter avec les catholiques, eux, à la limite, ils ne considèrent plus le ministère de cette femme extraordinaire. Amen. Il ne faut pas faire cette erreur. Mais de là à passer à avoir un culte en ce qui la concerne, ça c'est un pas que les évangiles ne nous ont pas enseigné. Et vraiment, il faut en être convaincu par Dieu nous-mêmes. Mais comme la Bible ne veut pas, je ne veux pas retrancher, il est mieux que nous nous en tenons à ce que ces écrits nous laissent comme conseil. Amen. Ce culte n'existe pas dans les Écritures, nous ne pouvons pas l'entamer de nous-mêmes. Alléluia. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit, peut-être qu'on va arriver au ciel, on va comprendre. Mais pour le moment, on dit, on n'ajoute rien, on retranche rien. Donc, il faut te tenir en cela. Amen. Alléluia. Ok, gloire à Dieu. Donc, Dieu va passer par la femme donc pour produire ce miracle. Et Marie va amener le Seigneur à déclencher. Elle vient, elle regarde Jésus, elle dit, ils n'ont rien à manger, et il n'y a plus de vin. Je lui dis, mais maman, il y a quoi entre toi et moi? Comme qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et puis elle part. Mais quelle part? Marie avait la révélation. Lisez le passage. Elle dit aux disciples, faites ce qu'il vous dira. Oh, le monsieur ne lui a rien dit. Lisons. 3 jours après, il y eut des noces à Cana. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Le monsieur dit qu'il ne veut rien faire. Mais quand elle part, c'est comme si elle sentait que quelque chose allait se faire. Je rappelle, on dit premier miracle. Donc, Christ n'avait pas fait de miracle jusqu'à ce jour. Donc, c'est pas que elle était habituée à une série de prodiges. Et puis, elle est venue l'interpeller pour dire, décante une situation. C'est son premier miracle, donc aucun autre miracle avant. Elle n'a pas vu Jésus ressusciter un mort, guérir, bien multiplier, déjà changer l'eau en vin. Il n'a jamais fait ça. Mais elle a senti par l'esprit. Alléluia. Il faut sentir que le temps arrive pour Dieu. Il y a un temps.
Et Jésus a dit, mon heure n'est pas arrivée. En réalité, son heure était arrivée. Mais il fallait quelqu'un pour déclencher ce moment. Et c'est ce que Marie a fait. Alléluia! Il dit, mon heure n'est pas arrivée. Mais Marie a senti. Elle dit, de même que l'éternel Dieu est passé par moi. La raison pour laquelle Dieu est passé par moi, pour t'avoir, c'est que Dieu a passé par moi aussi pour enclencher le début de ton ministère. Il faut que je te... Il faut qu'il y ait une parole que tu dois recevoir. Amen. Donc, elle parle à Jésus, et Jésus-Christ, il dit, femme qui attire en toi et moi, elle s'en va. Et puis, il va faire le miracle. Alléluia. Et voilà comment Christ va faire le miracle. On reviendra sur d'autres détails là-dessus. Je veux parler ici, donc, de la restauration. Donc, le vin est venu à manquer. Le symbole de la joie, du bonheur, dans ces noces-là, a disparu. Et Christ dit, sa mère dit, bon, verset 6, or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Amen. La Bible dit, il y avait 6 vases. Ce n'est pas aussi dit au hasard. Le chiffre 6 correspond au jour de la création de l'homme et de la femme. L'homme et la femme ont été créés le 6e jour. Alléluia. 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 Ça correspond au jour où Dieu a créé l'homme et la femme. Amen. Bon, une parenthèse. Le 6e jour, je ne sais pas si le premier, c'est dans le même sixième jour qu'il les a dissociés. C'est-à-dire où il a fait sortir la femme de l'homme. Je ne sais pas si c'est le 6e ou c'est un autre jour plus tard. Mais tout compte fait, celui à qui on a dit, Dieu a créé l'homme à son image, il a dit, soit fécond, multiplié, assujettissé, remplissé. Il a dit ça le 6e jour. Bon, c'est une parenthèse pour les théologiens qui veulent aller loin. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Donc, il dit, il avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. À quoi servaient ces vases? Pas à n'importe quoi. C'était des vases de la sanctification. La Bible dit que les vases étaient destinés à la purification des Juifs, des croyants. Et ces vases-là sont ceux-là que Christ a demandé. Amen. Il dit, en contenant chacun 2 à 3 mesures, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordinateur du repas. Et Jésus-Christ a fait remplir ces vases d'eau. Si le vin est venu à manquer, ça veut dire qu'il y avait des vases dans lesquelles le vin se trouvait au préalable. Vous comprenez avec moi, le vin était dans des vases. Mais Jésus-Christ n'a pas utilisé les vases qui avait servi précédemment à porter le vin. Si c'était simplement de l'eau qu'il voulait changer en vin pour que les gens aient simplement du vin à boire, qu'il n'y avait pas de message à l'intérieur de ce passage, je pense que Christ aurait sûrement utilisé les anciens vases où il y avait le vin. Comme le vin venait manquer, ça veut dire que les vases étaient déjà vides. Il allait dire, remplissez les vases où il y avait le vin, mettez-y de l'eau. Je vais faire une prière et il va se multiplier, il va changer en vin. Mais Jésus a demandé des vases spéciaux. Des vases qui étaient destinés à la purification des Juifs. Des vases pour la sainteté. Alléluia. Et lorsque ces vases-là sont venus, Jésus a demandé à ce qu'ils soient remplis d'eau. L'eau, c'est le symbole de la parole de Dieu. Alléluia. L'eau est le symbole de la parole de Dieu. Donc, quand ces vases ont été remplis d'eau, il a fait la prière, il dit, allez donner à l'ordinateur du repas. Lorsque celui qui organise le mariage, celui qui gérait, a goûté de ce vin, de cette, il a vu qu'elle était extraordinaire. Elle était beaucoup plus bonne. Le vin était plus bon. Le deuxième vin, hein, était plus bon. Et le monsieur s'est plaint. Il est parti voir le marié. Il pensait que c'est le marié qui avait fait ce coup-là. Parce que eux, dans leur coutume, lorsqu'on un mariage, on amène d'abord le bon vin, le meilleur, du bois. Et puis quand on est saoulé, on prend le vin, le mauvais vin. Et il va dire au monsieur, mais pourquoi tu fais ça? Tu nous as donné un vin. Bon, c'est pas que le premier vin qu'il avait amené était mauvais. Ça veut dire que le premier vin que le mari avait amené était son meilleur vin. Comme lui aussi, c'est un juif qui fait partie de la coutume,
Sans réflexion, c'est que on donne le mauvais vin après. Donc c'est son meilleur vin qu'il avait donné en première position. Vous comprenez avec moi, non? Donc le vin qu'ils avaient bu, qui est venu à manquer, c'était le meilleur vin, en tout cas, de se marier. Il a donné ce qu'il avait de meilleur. Parce que dans leur coutume, on donne le bon vin avant de donner le mauvais vin. Donc lui, il a donné son bon vin. Et quand Christ a fini de faire le miracle, le vin de Jésus était supérieur au meilleur vin du marié. Est-ce que quelqu'un me suit? Frère, je m'en vais quelque part. On s'en va quelque part. Alléluia. Donc, le vin de Jésus, le vin qui est sorti des vases de purification, le vin qui est sorti des 6 vases de purification remplis d'eau, était meilleur que le meilleur des vins que le marié ait pu acheter. Quand l'ordinateur a goûté, il dit, wow, c'est quel vin ça? Donc, tellement ça là, c'était tellement bon, il était parti, il s'apprêtait à aller faire un palabre. Quelqu'un qui se marie, on fait un palabre avec lui. Tu peux attendre à la fin du mariage pour dire au marié, c'est quel coup tu nous as fait là? Il était tellement choqué que séance tenante, le mariage du monsieur. Il dit, mon ami, qu'est-ce que tu nous fais? On ne prend pas, on ne donne pas le bon vin en dernière position. Alléluia. Et ce fils-là, la Bible déclare le premier miracle de Jésus. Maintenant, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais écoutons simplement la première interprétation. Je vais revenir quelquefois sur ce passage pour nous faire comprendre la réalité de ce que Dieu s'apprête à faire dans votre situation conjugale. Amen. Alléluia. Il faut sentir qu'il y a un temps pour la gloire de Dieu. Et le temps arrivé où Dieu s'apprête à glorifier son nom. Cette année, nous avons décidé de parler de l'année de la gloire. Et en marge de ce que nous traitons les dimanches au culte, Dieu me demande de prendre les mardis et de parler de la gloire dans le couple. La Bible dit que le premier miracle que Jésus a fait était destiné aux noces, à un foyer. Alléluia. Et la Bible dit que c'est là qu'il a montré sa première fois sa gloire. Et lorsqu'il a fait, la foi de ceux qui le suivaient a passé à une autre dimension. Ta foi en Dieu va rentrer dans une nouvelle dimension si tu saisis ce miracle de la gloire dans la famille. Le miracle de la gloire dans les noces. Il y a une gloire là-dedans. Maintenant, Jésus s'apprête à faire ce miracle. Le vin parle de quoi? Vous savez, il y a le premier vin qui sont tous nos efforts personnels pour nous marier et pour bâtir des foyers stables et heureux. Personne ne se marie pour être malheureux. Personne ne se marie, à part les gens mauvais, hein, qui rencontrent des personnes qui vont se marier juste pour voler l'argent du conjoint, de leur femme ou de leur mari, parce qu'il y a des femmes aussi comme ça. Elle regarde le monsieur, il a l'argent, elle dit tout ce que je vis, c'est le dévaliser. Ces gens-là sont diaboliques. Hein? Mais si quelqu'un l'a fait dans le passé, qu'il se répande. Mais il y a beaucoup de gens qui le font. Je ne peux pas laisser là. Donc, toute personne, lorsqu'elle se marie, a un certain espoir, a un certain rêve. Lorsque quelqu'un fait des noces, il ne souhaite pas que le vin vienne à manquer. Il veut que tout soit bien. Mais, quelle que soit votre bonne volonté, le premier vin, ça veut dire la première joie conjugale, va venir à vous. Vous savez, quand on se rencontre avec une personne qu'on aime, il y a une joie au début. Quand on parle du jour de mariage, c'est ce qu'on appelle le premier vin. Et tu vois, quand je pense à mon gars là, j'ai voulu respirer. Tu vois, cette joie là, c'est un peu comme si tu es ivre. La joie qui fait que tu peux rentrer. Tes parents disent, tu ne dois pas dépasser 21h. Mais quand tu le vois, tu peux rentrer à 23h. Ça, c'est le vin ça. Vous comprenez, non? Même à 1h du matin, les gens te comprennent et te disent, non, reste à cause de ce monsieur, de cette femme. Tu es au boulot, mais pendant que tu travailles, tu rêves. Coup de fil. Les gars, les anciens, rappelez-vous de ces instants. Guy Michel, souviens-toi de ces bons moments.
majorité des personnes, plus tard dans le foyer, disent que ce fut le merveilleux moment. Parce qu'après ça, c'est très difficile de retrouver une telle situation dans le foyer. Le moment où vous ne pouvez pas faire 20 minutes sans vous appeler. Où tu es? Non. Je vais te prendre le wororo. Et prends le wororo. Où tu es? Je vais te descendre du wororo. Après l'autre, et toi, tu fais quoi? Et il y a mon patron qui vient de m'appeler. C'est-à-dire qu'on se rencontre toute la journée, tous les beaux mots. C'est-à-dire vraiment, c'est du vin, non? Vous savez, les gens qui crient comme ça dans la rue, là, c'est quand ils ont bu le vin. C'est pas ça, le vin? Le vin donne de la joie. Le vin fait qu'on bavarde. On n'a rien à dire, mais tu veux dire tout. Quand vous avez cette situation de premier vin dans le couple, vous pouvez parler des heures avec la personne que vous rencontrez. J'étais sûr, vous bavardez, vous rebavardez. Mais vous savez, pour voir la gloire, Dieu va permettre. Parce que ce vin n'est pas... C'est un bon vin, mais ce n'est pas le bon vin de Dieu. C'est ce que vous allez me comprendre. Il y a... Je n'ai pas dit que c'est mauvais de boire le premier vin. Mais il y a une joie qui nous amène à bâtir les foyers et les couples. Il y a un vin, aujourd'hui, qui sous-tend tous les foyers, qui n'est pas le premier vin de Dieu, qui n'est pas la volonté première de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait demeure éternel. Le vin des hommes vient toujours à manquer. La Bible dit que tout ce que Dieu crée est éternel. Ce qui disparaît avec le temps n'est sûrement pas de Dieu. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais la majorité des couples sont bâtis sur ce vin. Ils se marient à cause de ce vin. Ils vivent ensemble à cause de ce vin. Et quand le vin vient à manquer, subitement, on commence à subir le foyer. Les coups de fil, chaque 10 minutes, commencent à disparaître. Avant, c'était 10 minutes. Après, c'est devenu 20. Il y a un moment, après, c'est 20. Après, c'est une heure de taf. Après, c'est un appel par jour. Après, on va voir un appel par jour. Mais on va se voir. Le soir, on n'est pas ensemble à la maison. Ce soir, on sera ensemble, non? Hey, tu as besoin de m'appeler? Alléluia. Amen. Quelqu'un sait de quoi je parle? Et quand le cellulaire sonne, on dit, mais il m'appelle pourquoi? Or, avant, si tu n'as pas appelé, même s'il n'a rien à dire, mais si tu n'as pas appelé, donc vous sentez que le vin commence à manquer quand vos rapports vont commencer à apparaître les premières disputes. Le moment où, franchement, vous n'avez pas trop envie de rencontrer la personne. On va rencontrer. Mais tu marches, oui, ton conjoint veut te suivre, allez faire les courses avec toi. J'ai des trucs à faire. Cette femme-là, ce monsieur-là, il est collé à moi. Je ne sais pas. Or, avant, vous étiez collé. Vous avez envie de faire toutes les courses ensemble. Vous avez envie de faire tous les achats, d'aller dans tous les supermarchés ensemble. Les hommes qui n'aiment pas aller dans les supermarchés pour faire, même quelqu'un même qui n'aime pas aller acheter même les habits de... Hein, les femmes aiment bien faire les boutiques là. Les hommes n'aiment pas ça. Mais à cause de l'amour du premier vin, un homme va choisir la robe avec toi. Ça, c'est le premier vin. Mais ce vin là, écoutez-moi, il vient toujours à manquer. Et la majorité des couples sont bâtis sur le premier vin. Il est bon parce que c'est le meilleur de vous. Vous savez que c'était votre propre mariage, donc vous avez amené votre meilleur vin. Parce que dans votre coutume, on boit d'abord le meilleur vin. Et puis après, on se gère pour terminer l'histoire. Pendant que c'est chaud, vivons bien. Après, on est là. Et le vin est fini dans beaucoup de couples et de maisons aujourd'hui. Le vase est vide. On a percé le fond. C'est fini. Il y en a même, ils ont fini jusqu'à ce qu'ils ont cassé même le... Et la personne en train de se dire là, pendant qu'elle est en train de m'écouter, ce n'est plus la peine. Il faut que je parte encore recommencer. Tu vois? Tant que tu ne comprendras pas le principe de la gloire dans le foyer, quel que soit le couple que tu auras, le vin va venir à manquer. Ce n'est pas un problème de l'homme avec lequel tu vis. C'est un problème du système qui conduit l'humanité. Il amène tous les gens à se marier avec beaucoup de flammes. Ça va arriver pour certaines personnes. Pour certaines, c'est 2 ans. Le vin prend 2 ans pour venir. D'autres 3, d'autres 4, 5, 6, 7. Après, les gens commencent à vivre ensemble. Donc, après les 4 à 5 premières années, le vin finit. Après, les gens commencent à supporter de vivre ensemble, pas parce qu'ils s'aiment, mais à cause des enfants. Le vin est fini. Il n'y a plus de joie. Les gens vivent ensemble à cause des enfants, et puis parce qu'on a dit, de toute façon, on ne peut pas divorcer. Moi, je vous dis quelque chose. Là, j'ai parlé, les gens n'ont pas bien compris. Amen. Non, il y en a qui disent, voilà, on va divorcer. On ne va pas divorcer, hein. Non, la Bible dit que Dieu hait la répudiation. Mais c'est comme si la Bible était. Quand vous écoutez la parole de Dieu en ce qui concerne le mariage et le divorce, c'est comme si Dieu nous met entre un truc. La Bible dit, ne vous privez pas l'un de l'autre de peur que tu ne tombes dans le péché. Si tu sais que tu ne peux pas te maîtriser, n'est-ce pas, marie-toi. C'est ce qu'il explique en 1 Corinthiens chapitre 7. Mais la Bible dit que celui qui regarde une personne à l'extérieur, qui la convoite, a déjà commis l'adultère. Dieu dit pour éviter l'impudicité ou l'adultère, que chacun ait sa femme et que chacun ait son mari. Maintenant, pourquoi est-ce que la Bible dit qu'on ne doit pas divorcer? Matthieu chapitre 5 ou Matthieu chapitre 19, le Seigneur dit si quelqu'un se sépare de la personne avec laquelle il s'est allié, l'homme répudie sa femme ou la femme répudie son homme, si cette personne-là va se marier, elle commet un adultère. Donc en fait, la crainte, toute la crainte, c'est la notion d'adultère. Quelqu'un me suit? Mais, je veux dire, un foyer qui est désastreux, où les gens n'arrivent plus à aller ensemble, amène les gens à commettre l'adultère, du moins qu'on commet l'adultère des gens en français. Un foyer où monsieur parle avec madame, je ne sais pas si vous me comprenez. Ils se passent, ça fait 3 ans ils vivent ensemble, 3 ans ils veulent se tuer. Ou bien beaucoup d'années, ils ne se supportent plus. Un foyer qui ne va pas bien n'est pas en train de respecter la volonté de Dieu pour le mariage. Le christianisme, la religion, a établi ses règles. On dit, le plus important, n'allez pas devant le juge. Sans prendre le temps de régler le fond. On préfère que les gens n'aillent pas devant le juge pour divorcer, qu'ils restent devant la maison pour garder l'apparence de couple. Pendant que pour Dieu, en fait, quand Dieu dit qu'il hait la répudiation, il n'est pas en train de dire qu'il déteste le fait d'aller devant le juge. Il est en train de dire qu'il déteste, qu'il hait le fait que deux personnes ne savent pas marcher ensemble. C'est ce que tu me comprends. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas pour le divorce, pour la séparation. Mais Dieu n'est pas aussi pour une vie conflictuelle. Mais quelqu'un me dit, pasteur, dans la situation où je suis, c'est soit l'un, soit l'autre. Je n'ai pas le choix. Si j'irai dans ce couple-là, je meurs. Autant partir. Selon toi, il y a 2 choix possibles. En fait, la gloire de Dieu va venir expliquer qu'il y a un 3e choix. Ce n'est ni rester, ni partir. Il y a un 3e choix. Ou tu ne divorces pas, mais tu ne restes pas aussi. Nous arrivons.
Alléluia! Il y a 3 choix. Mais nous avons défini, soit on reste ensemble puis on meurt, ou si on ne peut pas faire ça, autant divorcer. Ça c'est la loi des hommes. Et on a mis les gens dans un canevas. Donc les gens sont obligés de rester ensemble. Ils sont presque en train de s'entretuer dans leur couple. Parce qu'en fait, nous donnons une solution qui n'est pas la solution que Dieu a donnée. Le Seigneur a toujours une autre solution
qui n'est pas ce que vous voyez. Il y a une troisième solution. Dis à ton voisin, il y a une troisième solution.
Mais cette solution-là n'est ni le divorce, ni rester ensemble.
Ton cerveau ne peut pas comprendre.
Mais on va arriver là-dessus. Alléluia.
La troisième dimension que nous allons développer, c'est pourquoi nous sommes là, ouvre la porte de ce qu'on appelle la gloire. La gloire de Dieu n'arrive pas, vous savez ce qu'on appelle un vase. Le vase, où on avait mis le premier vin, la Bible dit que quand la Bible parle de vase, la Bible parle de personnalité. La Bible parle de mentalité. Il dit par exemple, tu ne mets pas du vin nouveau dans de vieilles coutures. C'est-à-dire, quand Dieu veut amener du vin nouveau, quand Dieu veut changer une situation, il dit, il faut que tu changes aussi le vase. Alléluia. Si tu veux apporter quelque chose qui est glorieux, tu ne peux pas le mettre dans une vieille manière de penser. Je veux te dire, si tu continues à réfléchir et à voir le couple comme tu l'as vu jusqu'à ce jour, la dimension de gloire dont je pense, tu ne pourras pas y entrer. Parce que pour toi, c'est soit bien, soit mal. Soit je pars ou je reste. Voilà comment tu raisonnes. Soit je reste, soit je pars. Maintenant, Dieu te dit, il y a un troisième choix. Un jour, les gens, si vous lisez bien Jésus, vous allez voir que toujours Christ avait navigué dans le troisième choix. Un jour, les gens viennent. Ils viennent trouver Jésus. Il y a une femme qui a commis l'adultère. On doit la lapider pour qu'elle meure. Donc, Christ est trop fort.
Alléluia!
Et les gens arrivent, la loi dit,
on doit la tuer.
C'est, voilà. Il y a l'un ou l'autre. Soit tu dis, libérez-la, soit on la tue. Jésus, choisis. Mais pour eux, ils ont choisi Jésus. C'est-à-dire, parce que si Jésus dit,
libérez-la,
ils vont dire, cet homme-là, il s'élève contre la parole de Dieu. Donc, il y a certaines personnes qui sont en train de m'entendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça nous va dire aujourd'hui,
on divorce.
On dit, je prends la parole de Dieu.
Si tu dis aussi, on ne divorce pas,
tu cautionnes des situations conjugales désastreuses que les gens sont en train de supporter, lesquelles ils sont en train de souffrir, les foyers sont davantage tristes et malheureux. Ça a été longtemps difficile pour moi pour comprendre, mais Seigneur, tu n'es pas dans le divorce. Et tu n'es pas aussi dans la situation que les gens disent. Tu n'es pas à la salle des danses. Tu n'es pas dans la séparation. Mais tu es où alors? Que doit faire une personne qui s'ouvre de mari? Je ne sais pas. Je... Vous avez déjà eu problème. Mais quand les gens viennent t'expliquer leur problème de couple, ben. C'est toi-même, tu t'en sais plus, tu t'en mets des enfants. Tu es divorcé. Mais en même temps que ta bouche veut dire ça, tu penses aux Écritures. Je connais des histoires ou des. Mais c'est l'idée, il va tuer sa femme. Il a menacé physiquement. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il n'a qu'à rester. Bon, s'il dit de partir aussi, le monsieur n'a pas commis à tout faire. Il dit la femme, la sœur dans la maison, elle va la tuer. Son mari devant le maire. Est-ce que Dieu est limité contre deux choses?
Alléluia!
Si quelqu'un me suit, dites, pasteur, explique-nous le troisième choix.
Amen!
On va tout dire aujourd'hui quand même.
On garde le suspense pour. Alléluia!
Ok, gloire à Dieu, ça va aller.
Amen.
Et donc, je donne l'exemple de Jésus où Christ a choisi un troisième choix. Les gens m'ont dit, tu l'as.
Il s'est simplement mis par terre, il a écrit
quelque chose, et puis il s'est levé. Il dit, je suis d'accord, applique-moi la loi. Celui qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à lancer la pierre. Donc, il fait appliquer et l'honneur de Moïse.
Amen.
Sans dire aussi, femme, tu es libérée. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a pas deux choix. Dans l'honneur de Moïse, on prend une femme en adultère, on la lapide, elle meurt. Donc, soit Moïse, Jésus dit, libérez-la, et on va dire, il est contre la loi. Soit il dit, lapidez-la, on va dire, mais il est mauvais. On dit, il n'est pas dit que votre type est bon, là. Il n'a même pas eu compassion de la dame. Il a dit, tuez-la. Jésus dit, ils se sont partagés, ça leur fait sourire, quoi. Et puis il dit, celui qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à lancer la pierre. Donc, en même temps, il y a la loi de Moïse là-dedans. En même temps, je dis que c'est une réflexion qui est bizarre. On ne t'a pas dit de ne pas lapider. On ne t'a pas dit aussi de la laisser vous lapider. On ne t'a rien dit. Mais on t'a dit quelque chose quand même. Alléluia. Alléluia. Et les gens se sont arrêtés. Ils ont commencé à penser. Donc, ils ne pensaient plus à la dame. Ils pensaient à leur propre vie. Ça veut dire, c'est comme si Christ les a détournés. Il dit, le problème, c'est pas elle. Maintenant, vous, ils ont commencé à réfléchir. Et il pense, il a vu que, une fois quand même, il a menti. Il n'a pas dit celui qui n'a jamais commis l'adultère. Chacun a réfléchi à sa vie. Le plus âgé dit, les petits. Parce qu'il avait dit, ils sont partis du plus âgé au plus jeune. Donc, le plus âgé réfléchit. Qu'est-ce qu'il appelle ces péchés-là? Il dit, le petit, comme vous êtes jeune, peut-être vous n'avez pas beaucoup péché. Finissez l'affaire. Et puis, il s'en va. L'autre qui arrive, il dit, ouais. Bon, les petits frères, je ne sais pas combien ils étaient. Hein. C'est vrai que je suis un gars, j'aime la parole. Mais il m'est arrivé de temps en temps de faire des trucs. Bon, vous, ils sont pas partis en groupe. Ils sont partis un à un. Ça veut dire? Mais non, lisez l'histoire. Ils sont pas partis en groupe. Ils sont venus en groupe. Mais chacun est parti après l'autre. C'est-à-dire, chacun a réfléchi. Et puis, il a confié la tâche aux autres. Parce qu'il n'a pas dit en partant, mes amis, changeons d'avis. Ils ne se sont pas consultés. Il dit, qu'allons-nous faire? Chacun a vu par rapport à lui. Est-ce qu'il était digne de lancer une pierre? Il s'est éliminé. Le moins âgé, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est pas une décision globale. C'est une décision individuelle. Or, au départ, ils avaient décidé en groupe. Il y a toujours une troisième solution. Qui est révélée par le Seigneur. Ni divorcer, ni rester dans cette situation.
Alléluia!
Alléluia! Alors donc, on revient à l'histoire de Jésus, de l'Église de Canaan. Et Christ dit, lorsqu'il donc s'apprête à faire le miracle, à changer la situation, il ne prend pas les vases dans lesquelles on avait mis les vins. Il prend de nouveaux vases. Et la Bible spécifie. Dieu va se glorifier dans ta vie, mais il faut que ta façon de penser change. Tu as un raisonnement qui te limite dans la dimension de la gloire. La Bible déclare que ce fut là que Jésus a manifesté pour la première fois sa gloire. Et pour manifester sa gloire, il a besoin que les gens changent leur façon de voir le monde. Il dit changer les bases. Venez telle ou telle base. Et les bases qu'il a prises, normalement, quand vous pensez à ces bases-là, vous n'avez pas envie d'y mettre du vin. Les bases destinées à la purification. Vous n'avez pas envie d'y mettre du vin, des gens qui vont se libérer. Ils ont déjà bu. Comprenez-le. Ce sont les bases de sanctification. Quand tu vas mettre à l'intérieur le vin.
Alléluia.
Pour restaurer ta maison. Pour restaurer ton couple. Voilà comment tu vas procéder. Hein? D'abord, Dieu va te montrer dans cette parole où est la limitation de la première mentalité, de la première base que tu as qui te prédestine. Un fiasco à 5. Le foyer même est en train de commencer. Les paroles que nous allons enseigner pendant que ceci se fait doivent changer ta mentalité pour avoir un peu plus de gloire en gloire. Ce que nous sommes en train de dire va amener les gens à changer de base et à permettre à Dieu de transformer de l'eau en vin. C'est-à-dire, l'eau là, c'est la parole de Dieu. Cette même parole que tu es en train de lire, dans laquelle il va mettre l'eau, va changer ta vie.
Alléluia.
C'est un des premiers miracles que le Seigneur s'apprête à faire. Amen. Je vais dire simplement aussi aux gens qui nous ont entendu que la cause de votre célibat, c'est vrai, peut-être qu'il y a des démons, mais il y a une mentalité que Dieu veut changer. Il y a quelque chose dans votre vie qui cloche. Certains me diront, c'est le temps de Dieu. Je dis, même quand Dieu fait attendre, il ne faut pas attendre pour le but d'attendre. Il le fait parce qu'il a un travail à faire. Ce n'est pas pour le plaisir, sinon ça devient du. C'est comme quelqu'un qui est maso. Et tu fais souffrir quelqu'un juste pour voir. Voilà. Tu vas voir, allez, souffre, tu vas te marier à 60 ans, allez, souffre. Et puis Dieu est content, Dieu n'est pas maso. C'est-à-dire, on ne sait pas pourquoi, il ne veut rien t'apprendre, il n'a pas de projet. La Bible dit qu'il a tout créé pour un but. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu atteignes ces âges avancés, sans avoir rencontré ton conjoint. Mais, Dieu veut que ton couple soit brûlé. Il n'est pas prêt à te marier à tout prix. Pour que demain, tu connaisses la situation du vin qui est venu à manquer et que ta souffrance ne soit plus grande que la détresse que tu as connue lorsque tu es devant ton mari. Car lorsque le vin finit, ça devient dramatique. C'était mieux de ne même pas avoir commencé à boire du vin.
Alléluia! Alléluia! Alléluia!
Donc il y a toute cette mentalité-là à changer. Le vin, les bases descendant dans la purification, j'ai dit, si c'est le chiffre de l'homme. Nous sommes, ce que nous sommes en train, on va voir, tout de suite, je vais juste introduire là-dessus, la gloire de Dieu même dans les fiançailles. Cette mentalité nouvelle que Dieu s'apprête à faire. Je lui ai dit, il y a un temps pour la gloire. Il y a un temps pour la gloire. Et je sens dans mon cœur que le temps de la gloire dans le domaine conjugal est arrivé. Quelque chose va se passer. Ça veut dire quoi? Les couples même qui sont déjà bien vont rentrer dans une nouvelle dimension. Dieu va faire passer de votre premier vin à un vin nouveau. Quelque chose s'apprête à se passer. Alléluia. Quelque chose. Mais vous savez, quand Dieu va venir le faire, Dieu commence à donner une parole nouvelle. Quelque chose que tu n'as jamais entendu. En ce qui peut-être concerne le mariage. Juste pour changer ta façon de penser. Lorsque Christ était en train de prêcher son message, il a dit ceci. Repentez-vous. Vous savez que le mot repentance veut dire changer de mentalité. C'est métanoïa. Ça ne veut pas dire confesser vos péchés. Ça veut dire change ta façon de voir. Parce que le royaume de Dieu est proche. Change ta mentalité. Dis à ton voisin, change ta mentalité. Parce que la gloire de Dieu est prête à te visiter.
Alléluia. Alléluia.
Je me souviens, dans la période où je me donnais le témoignage, j'étais séparé de ma fiancée. Je m'apprêtais à vraiment travailler pour le ministère, à faire beaucoup de choses. Et puis Dieu me disait, si elle n'est pas là, tu ne pourras pas atteindre ce que j'ai décidé pour toi. Le premier miracle que Dieu a fait pour le ministère que j'ai aujourd'hui, ce n'était pas l'onction. Ce n'était pas la capacité de prédication. C'était de me former pour le mariage, de m'apprendre à me marier. Si vous apprenez à se marier. Dieu doit te reformater.
Alléluia.
Il doit te reformater parce que le premier base que tu es est dangereux même déjà. Avant, ça veut dire, Dieu sait 5 ans à l'avance que potentiellement tu as un problème. Il doit te reformater.
Alléluia. Alléluia.
Le premier base, c'est le vase que les hommes ont donné. Ce n'est pas le vase que le Seigneur a choisi. Les hommes ont choisi un premier vase dans lequel ils ont mis du vin. Mais c'était le vase du choix des hommes, du choix des conjoints. Vous me suivez? C'est avec cette mentalité-là qu'ils ont fait cela. Et c'est ça le premier vase. Ce n'était donc, il n'a donc pas produit un vin de gloire. Amen. Ah, le temps arrive, on va s'arrêter là. Vous savez, en fait, comme je sais que mardi prochain, Je tarde un peu parce que mardi prochain on reçoit le pasteur Castano et il y a des choses que je dis, ça va me coincer. Parce que je vais sauter un mardi.
Amen.
Donc je freine un peu mon niveau. Je freine un peu mon évolution.
Amen.
Donc nous sommes là ce soir pour être reformatés, nous sommes là dans ce programme pour être reformatés, pour que les couples deviennent glorieux. Nous sommes là parce que Dieu va bâtir des maisons, des entreprises. Dieu va glorifier son nom dans nos couples, dans nos foyers, pour que nous puissions pleinement entrer dans notre destinée.
Amen.
Donc le premier vase qui est corrompu, pas forcément corrompu. Les vases n'étaient pas des vases sales dans lesquelles on a mis le vin. C'était des bonnes intentions. C'était de bons projets. De bonnes intentions avec lesquelles tu veux te marier. De bonnes intentions avec lesquelles tu veux bâtir. Tu veux faire tes noces. De bonnes intentions. Mais tes bonnes intentions ne sont pas les intentions de Dieu.
Alléluia.
Alors, pour voir quel est le vase que Dieu a disposé pour les mariages. Pour le mariage, comment Dieu conçoit, quelle est la mentalité que Dieu prépare pour bâtir le couple. Il faut aller dans le livre de la Genèse. Au sixième jour.
Amen.
Au sixième jour, comment Dieu lui-même a instauré le mariage. Il faut entrer dans cette mentalité. Le monde nous a donné une certaine mentalité. La Bible dit ceci. Dieu a dit ceci dans sa parole. Il dit, je ne te frapperai de aucune des maladies avec lesquelles j'ai frappé les Égyptiens. Je vous ai expliqué la dernière fois que ça signifie tout simplement que ce dont les hommes du monde souffrent, qu'ils soient problèmes conjugal, tous les problèmes conjugaux, toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés, toi, si tu connais la parole de Dieu, tu ne souffriras pas de ces choses. Lorsque Dieu s'apprêtait à envoyer Israël dans le désert pour leur manifester sa gloire, la première des choses qu'il a faite, il est parti les trouver en Égypte. La Bible dit, il a frappé l'Égypte de 10 plaies. Pour ceux qui étaient occultes lorsque j'ai abordé le thème, je vous ai dit ceci, les 10 plaies d'Égypte étaient 10 actions de Dieu contre les divinités égyptiennes. Ce que Dieu a frappé, lorsqu'il a changé l'eau des fleuves en sang, il était en train de frapper un dieu égyptien. Les choses que l'Égyptien adorait. Et les divinités égyptiennes avaient fini aussi par être adorées par les Hébreux même. Nous avons tellement passé du temps dans le monde que nous avons fini par adorer les dieux de ce monde. Nous nous marions comme le monde veut que nous nous marions. Nous agissons, les gens rentrent en relation selon l'esprit de l'Égypte, selon la mentalité du monde. Les gens se marient pourquoi? Et l'esprit même du mariage, même qui sous-tend le monde, est faussé à la base. Et cette même mentalité-là qu'on retrouve à l'église, et cette même mentalité qui produit le premier vase, et qui produit des couples qui potentiellement, demain, ne se supporteront plus. Parce qu'avec ce type de couple, le vin va sûrement venir à manquer. Lorsque Dieu voulait montrer sa gloire à Israël, la première chose, pendant qu'ils étaient encore en Égypte, il va faire frapper l'Égypte de 10 plaies. Et chacune de ces 10 plaies s'est adressée à une divinité égyptienne. Isis, Api, Osiris, Et, sont les différentes divinités, les grenouilles, tout cela, c'était des divinités. Aujourd'hui, nous n'en nommerons pas les plaies, nous n'en nommerons pas l'Égypte, mais l'adoration selon Dieu. Ce n'est pas le fait de se procéder devant une image. La Bible dit que celui qui aime l'argent est un idolâtre. Donc ça veut dire quoi? L'idolâtrie selon Dieu est une façon de penser, est un attachement émotionnel à quelque chose. Si aimer l'argent, quand Jésus a dit, est-ce que vous me suivez? Quand Jésus a dit, vous ne pouvez pas adorer Dieu et puis adorer maman. Mais qui devant nous se procède devant l'argent? Vous dites l'argent, tu es mon Dieu, tiens. Voilà. Non! C'est une façon de penser. C'est la manière dont ton cœur est attaché à l'argent qui fait que le Seigneur dit, tu ne peux pas l'adorer et puis adorer maman. Sinon personne ne prend maman. On se procède devant Dieu. Mais on ne se procède pas devant l'argent. C'est une attitude. Adorer les dieux égyptiens, c'est avoir un cœur attaché à des principes mondains. Alléluia. Alléluia. À des principes mondains.
Amen.
J'ai dit que comme chaque partie, je dois vous choquer avant de partir. Il y a des gens, par exemple, il y a un principe qui n'est pas biblique. On ne trouve nulle part dans les écritures. On dit que ça va choquer des personnes. Dieu montre à une personne, tu vas te montrer, par exemple, tu vas montrer à une personne que ton mari, une femme, le mari qui te montre, il est plus âgé que toi. Il y en a qui ne peuvent jamais accepter ça. Oui. Enfin, on va lire les Écritures. Vous allez voir que ce n'est pas fondé. Ce n'est pas fondé. Je dis, j'allais vous choquer avant de partir.
Je dis, ce n'est pas bibliquement fondé.
Il y a des personnes qui ne peuvent pas rencontrer leur conjoint. parce qu'elles sont données une règle que Dieu n'a pas donnée.
C'est-à-dire, tu arrives et l'homme de ta vie,
moi je connais des couples qui ont compris ce mystère et qui ont changé de mentalité. La femme est plus âgée que son mari, mais ils sont heureux comme pas possible. En fait, est-ce que le problème que tu recherches, c'est l'âge ou c'est trouver quelqu'un qui t'aime et que vous allez aimer, à qui tu peux être soumise, il va te bénir. Que recherches-tu? L'âge ou l'amour? Les gens t'ont donné, ça c'est l'exemple le plus banal. Mais beaucoup de cœurs, pendant que je parle, ne peuvent pas accepter. Parce que pour eux, l'âge est synonyme d'autorité. Ça veut dire que si un homme est moins âgé que toi, la femme plus âgée ne peut pas le respecter. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'autorité n'est pas en fonction de l'âge. Voilà. Solo Guillaume, c'est le premier ministre ici. Mais il est moins âgé que beaucoup de gens. S'il parle, pourquoi faire? Frère, l'autorité n'est pas fonction de l'âge. C'est une fonction d'une mentalité et d'un grade que Dieu te donne. Dieu a dit, Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à votre mari. C'est un règle qu'il a donné. Nous, on dit, bon, pour que la soumission soit possible, il faut que l'âge part avec. Parce que chez nous, dans notre tradition, l'âge détermine. Ça, c'est toi-même maintenant qui est venu donner un vase. Et à cause de cette limitation de pensée, Dieu te montre un frère. C'est un cauchemar, c'est le diable. Au nom de Jésus. Et celui qui te paraît le tonton là, tu es parti vers lui et le vin a manqué. Or, le plus jeune là, avec lui, le vin allait être. Le vin allait être renouvelé. Mais ta mentalité te coince. Et il y a encore plein de choses pareilles qui sont des bases avec lesquelles nous avons décidé de partir. Maintenant, tu as décidé pareil, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas marier une femme qui a déjà un enfant.
Bon, c'est bon. Alléluia. Oh, la personne que tu vas te montrer, même si dans sa vie, elle a fait une erreur.
Mais c'est exactement celle qui est là qui va te donner le bonheur. Mais à cause de ta mentalité. Parce que tes parents t'ont éduqué. On dit une femme qui a déjà un enfant, ce sont des problèmes. On t'a expliqué. Tu as emmené un vase. Ce vase-là, le vin va manquer. Parce que le vase qui donne la vie, c'est celui qui est choisi par Dieu lui-même. Et quand Dieu choisit le vase qui donne la vie, tu n'as pas l'impression qu'il est destiné au vin. Est-ce que vous me suivez? Tu te dis, mais c'est un vase pour ce qui est pur. Est-ce qu'on peut mettre du vin dans ce vase-là? Prions le Seigneur. Dis Seigneur, change. Allons dans ta parole. Mais vous allez comprendre, mais il y a beaucoup de retard. Mais, s'il vous plaît, ne commencez pas à vous choisir. Laissez-moi finir l'enseignement, pardonnez.
Alléluia.
Ne prenez pas de décision hâtive tant qu'on n'a pas fini ce séminaire, s'il vous plaît. Écoutez la parole jusqu'à la fin. Ne concluez pas. Même si quelqu'un n'est pas d'accord avec certaines choses, prends le temps, écris déjà tes questions. Je dis, on aura des questions. Écris les choses. Vous pouvez déjà peut-être me faire parvenir au secrétariat ce que vous ne comprenez pas pour que dans les messages qui vont suivre, n'est-ce pas, je puisse... C'est pour ça qu'on prend le temps de la parole. On dit, c'est le mardi des champions. Vous me suivez? Donc, on n'est pas pressé. Le plus important pour nous, c'est le changement, non pas la vitesse. Ok? On ne court pas derrière quelqu'un. On veut voir la gloire de Dieu. Amen. On est devant Dieu. On va écouter sa parole. On va être humble. On va laisser le Seigneur transformer nos cœurs, changer notre mentalité. Alors, tu vas prier l'Éternel. Et maintenant, ce sera très bien s'il y a des gens qui ont des questions déjà. Écrire ou bien qui veulent certaines précisions. De me faire toujours des petites notes, que ça parvient au secrétariat. Ça me permet peut-être d'ajuster certaines choses, parce que quelquefois, dans la parole, l'esprit de parole, on peut omettre certaines choses. Si je vois que je peux garder vos préoccupations pour la période des questions, je le ferai. Le plus important, c'est qu'on évolue Le plus important, c'est qu'on enseigne ce que Dieu a dit. Amen. Ensemble, baissons les têtes, parlons à notre Dieu. Prions les mains. À Dieu. Ce que nous donnons à Dieu, c'est que demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi le bon passe, donne-moi le bon passe, donne-moi le bon passe, donne-moi le bon passe. Et le Seigneur nous a montré aujourd'hui que le vase qu'il a pris pour multiplier, pour changer, pardon, l'eau en vin, n'était pas le vase qui initialement paraissait être prévu pour la chose. Aujourd'hui, ton Dieu t'a dit que ce que tu penses, pour voir le monde en noir et blanc. Il y a encore un troisième choix. Il y a encore un troisième choix. Ne prends pas de décision. Ne dis pas je pars maintenant de ma maison. Ne dis pas je vais rester dans cette situation de souffrance atroce. Ni l'un ni l'autre ne sont le choix de Dieu pour ton couple. Dieu ne veut pas que tu demeures dans cette situation de souffrance dans ton foyer. Dieu ne veut pas aussi que tu te loignes parce qu'il dit qu'il y a la répudiation. Aujourd'hui, ton Dieu t'a dit, mon fils, ma fille, il y a un troisième choix. Dispose simplement ton cœur pour que je puisse te montrer le troisième choix. Change ta mentalité. Réponds-toi, métanoïa. Change ta mentalité afin que je puisse t'apporter une révélation nouvelle, un vin nouveau. Si tu restes dans tes vieilles conceptions qui ne sont pas véritablement fondées sur la parole, je ne pourrai pas apporter le vin. Quand je te pardonnerai de m'envoyer des vases destinés à la purification, tu me diras, Seigneur, ces vases sont destinés à la purification. Comment peux-tu y mettre du vin? Comment peux-tu y mettre du vin? Mais dispose-toi parce que Dieu veut se glorifier. Change de mentalité. Ne laisse pas tes idées préconçues, ta façon de voir le monde, ta première mentalité te limiter, t'aveugler. Je te demande d'envoyer des nouveaux vases. Tu veux absolument lui envoyer les vases qui ont servi à porter le premier vin. J'espère qu'il va renouveler la situation que tu avais connue dans ton foyer au départ. Dieu ne va pas renouveler votre première joie. Dieu ne va pas renouveler le premier amour que tu avais avec ton conjoint. Dieu va envoyer un nouveau vin. Un vin nouveau. Un vin qu'il va créer à partir de sa parole. Pas à partir de ce que tu as fait, de tes efforts personnels. Alors il a besoin que tu sois disposé. Il a besoin que tu sois disposé, homme de Dieu. Il a besoin que tu sois disposé, servant de Dieu. Il a besoin que tu sois disposé, enfant de Dieu. Dieu s'inquiète de ta situation conjugale. Elle ne lui est pas inconnue. Mais tu as besoin de la révélation d'une verge, d'un bâton nouveau, d'une directive nouvelle pour entrer dans sa gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Enseignemoi.com.
enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.